Vous écoutez On lit pour vous.
De course, d'arbres et de résilience. Une chronique de Rosemée, automne, T. Morin, parue le 10 juin 2026 dans La Presse. Il y a des arbres qui ont 200 ans d'histoire. Il y a des marcheurs et des coureurs qui les croisent sans se douter des vies qu'ils ont vues défiler. Il y a une relation à bâtir. Encore une chronique sur les arbres? Oui. Après avoir écrit sur la mémoire des peupliers, les branches boussoles et la façon dont les arbres composent avec leur trauma, il y a toujours beaucoup à dire. Mais rassurez-vous, c'est aussi un texte sur la course, la nature, la contemplation, l'histoire avec un grand H et un certain album documentaire. Si vous n'y trouvez pas votre compte, je vous recommande les chroniques « Train de vie du dimanche » dans ce même journal. Elles sont très intéressantes et ne couvrent probablement aucun de ces thèmes. Vous avez remarqué comme il y a beaucoup de gens qui se pressent sur les monts et les collines du Québec ces temps-ci? La course en sentier a le vent dans les voiles. Et, en bonne suiveuse, je commence, moi aussi, à troquer l'asphalte contre les chemins remplis de racines et de risques de me fouler une cheville. J'aime ça. Ça demande une présence entière, une endurance que je n'ai pas encore et une humilité qui peut toujours grandir. Surtout, ça me permet de plonger dans le bois. Évidemment, nul besoin de courir pour profiter de la forêt. Au fil de mes sorties, je croise des familles, des cueilleurs, des gens qui méditent, d'autres qui promènent leurs chiens ou qui espèrent l'amour. La montagne réunit bien des faunes et elle a le don de nous enlever un certain poids des épaules, qu'importe ce qu'on est venu y faire. La forêt nous allège. C'est donc dire qu'elle nous absorbe. Et elle n'en sort malheureusement pas gagnante. L'album « Moi, Quentin Rubio, chaîne guide, la bagnole » s'ouvre sur les mots « chers ennemis ». Dans ce livre illustré par Catherine Filteau, Bertrand Laverdure donne la parole à un chêne rouge de plus de 200 ans. L'arbre, situé en bordure d'un sentier secondaire du Mont-Royal, poursuit sa missive aux humains ainsi. Vous avez tout envahi. Vous êtes des animaux qui bougent, évoluent, crient, cassent, percent, coupent, tuent et conquièrent. Des passagers fous, des assoiffés d'idées, d'argent, de pouvoir ou de voyages incessants. On parle beaucoup de l'animal humain. On ne parle que de lui. Quentin Rubio nous remet à notre place et nous rappelle qu'on a beau se comporter comme des rois, on n'est pas grand-chose dans le large spectre du vivant. Les arbres s'adressent à la terre depuis plus longtemps que vos cris, vos paroles et vos temples. Ils ont 382 millions d'années. Tandis que vous, chers Homo sapiens, vous venez à peine de souffler vos 300 000 bougies. Quand je vous parlais d'humilité, pas besoin de courir dans les éboulis pour en avoir une dose. On peut aussi écouter un Quercus rubra. Moi, Quentin Rubio, chaîne guide qui est paru en 2024. J'aurais aimé lire l'ouvrage plus tôt, pour mieux comprendre l'histoire des sentiers que j'emprunte. Avant le travail de Bertrand Laverdure et de Catherine Filteau, je ne savais pas grand-chose de l'arrivée des arbres sur le territoire québécois et de l'explosion du Dévonien dans la péninsule gaspésienne. Des glaces qui se sont retirées des basses terres du Saint-Laurent il y a environ 13 000 ans. Ou encore des peuples des Premières Nations qui ont habité les flancs du Mont-Royal bien avant vous et moi. S'il s'intéresse à plusieurs sujets, l'auteur et l'illustratrice documentent surtout la naissance de Quentin Rubio en novembre 1819. Le chêne rouge sera témoin de l'épidémie de choléra de 1832, du grand incendie de Montréal en 1852, de la création du parc du Mont-Royal il y a 150 ans, d'un funiculaire à 8 sous le passage, de la visite du roi George VI et de la reine Élisabeth, de la fameuse Saint-Jean de 1975 et de la crise du verglas. Le pauvre Quentin verra aussi plusieurs de ses comparses disparaître en 1954 quand on décidera de raser des chenets pour éloigner les indésirables, les prostituées et les homosexuels, qui s'y adonnent à des activités dites « immorales ». Je me demande si les chaînes de la montagne s'inquiètent pour la suite, la leur comme la nôtre. La moralité, les crises, les épidémies, ils connaissent ça. Rien de nouveau pour eux dans le chaos de nos jours. Ils ont passé à travers des siècles de tempêtes. Peut-être saura-t-on aussi le faire. Maintenant que j'en prends la pleine mesure, leur résilience m'inspire. Que ce soit quand je pense au futur ou quand je dois monter une maudite côte en courant. Quel sport frustrant! C'était de course, d'arbres et de résilience. Une chronique de Rose-Aimée, Automne, T. Morin, parue le 10 juin 2026 dans La Presse.
Hockey Night in Canada ne reviendra pas sur les ondes de CBC. Un texte de Greg Roy Strong paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir. Hockey Night in Canada, une émission qui fait partie intégrante du paysage culturel canadien depuis près de 75 ans sur les ondes de CBC, ne sera pas de retour sur la chaîne publique la saison prochaine. Un accord de sous-licence entre Rogers Communications et CBC, qui permettait la diffusion de l'émission sur le réseau, est arrivé à échéance à la fin des séries de la Coupe Stanley. Les deux parties n'ont pas renouvelé leur partenariat pour la saison 2026-2027, soit la première année du contrat de 12 ans et de 11 milliards de dollars conclu entre Rogers et la LNH pour les droits de diffusion. Auparavant, CBC diffusait les matchs nationaux le samedi, ainsi que les quatre rondes des séries chaque année. Après un partenariat fructueux de 12 ans, Sportsnet et CBC ont annoncé aujourd'hui que la chaîne publique ne diffusera plus les matchs de la LNH après la saison en cours, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de programmation sportive, à la suite du succès sans précédent des Jeux olympiques de Milan-Cortina, ont déclaré Sportsnet et CBC mardi dans un communiqué conjoint. Regarder du hockey le samedi soir est une tradition bien ancrée chez les Canadiens et Sportsnet est fier de perpétuer cette tradition. Ce partenariat a été formidable et les deux parties se réjouissent à l'idée de poursuivre leur collaboration. Bien que CBC conserve la marque Hockey Night in Canada, c'est la première fois que l'émission ne sera pas diffusée sur le réseau public canadien. Je n'arrive pas à l'imaginer, a mentionné Michael McKinley, auteur de Hockey Night in Canada, 60 saisons. En fait, oui, je peux l'imaginer, mais je préfère ne pas l'imaginer. Dans un communiqué distinct, CBC a annoncé le lancement d'une nouvelle émission le samedi soir qui mettra en lumière les athlètes canadiens en compétition au pays et à l'étranger. Les détails de la programmation pour cette tranche horaire n'étaient pas disponibles, mais le réseau envisage de diffuser les prochains Jeux du Commonwealth, les ligues professionnelles féminines et plus de 20 championnats du monde majeurs. C'est assurément la fin d'une époque, a affirmé Chris Wilson, directeur général de CBC Sport, lors d'un entretien téléphonique. Mais nous préférons y voir une opportunité plutôt qu'une perte. Nous sommes pleinement conscients que ça privera certains Canadiens de la possibilité de regarder ces événements sur CBC. C'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous sommes impatients d'entamer le prochain chapitre. CBC, qui a diffusé pour la première fois Hockey Night in Canada à la télévision en 1952, est un incontournable du samedi soir pour des générations d'amateurs de hockey. Des commentateurs comme Dick Irvin, Bob Cole, Ron McLean, Don Cherry, Dave Hodge et Foster Hewitt, pour n'en nommer que quelques-uns, ont contribué à créer des souvenirs que les Canadiens chérissent. Les vestons bleu poudre ornés d'une rondelle et d'un bâton sur la poche qui constituent le logo du HNIC étaient aussi familiers que les voix des commentateurs. La marque de CBC était si dynamique, si bien conçue et présentée qu'elle a défini une façon de raconter l'histoire du sport, a ajouté McKinley lors d'une récente entrevue. Les choses ont commencé à changer lorsque Rogers a conclu un accord de 12 ans avec la LNH en 2013 pour un montant de 5,2 milliards de dollars permettant la diffusion de nombreux matchs sur la plateforme de Sportsnet. Le géant des télécommunications et la CBC ont conclu un accord de sous-licence pour la diffusion en anglais des matchs de HNIC et un accord distinct pour la diffusion en français a été conclu avec TVA, un élément essentiel de l'histoire canadienne. Je crois qu'en tant que diffuseur national, en tant qu'entité responsable de faire connaître les histoires canadiennes au Canada, le hockey est un élément essentiel de l'histoire canadienne, a exprimé McKinley. Je crois que ça faisait partie du mandat de CBC. Ils l'ont bien fait pendant longtemps. Dans ce cadre, Sportsnet produisait les matchs, gérait la ligne éditoriale et gérait la publicité. L'intégration de CBC a permis d'élargir la portée de l'émission à travers le pays. Elle a également préservé la tradition et permis aux diffuseurs de promouvoir certaines de ses propres émissions. C'était le rendez-vous télévisuel incontournable du samedi soir au Canada, a soutenu James Nadler, directeur du programme d'art et de médias, radio et télévision à l'Université métropolitaine de Toronto. Le premier accord de sous-licence, une entente de 4 ans débutant avec la saison 2014-2015, a été suivi d'une prolongation d'un an. Lorsqu'un accord de sous-licence de 7 ans a été finalisé avant la saison 2019-2020, Rogers a indiqué qu'il garantissait que les diffusions de Hockey Night in Canada continuent de rejoindre le plus grand nombre de Canadiens possible chaque samedi soir sur les ondes de CBC, Sportsnet et City. Rogers a également souligné que HNIC se classait constamment parmi les 5 émissions les plus regardées, rejoignant en moyenne 7,5 millions de Canadiens chaque semaine. En plus des diffusions télévisées traditionnelles, les matchs de HNIC étaient disponibles sur le site Internet de CBC, ses applications et d'autres plateformes de Rogers Sportsnet. Les matchs de hockey de la LNH du samedi soir font partie intégrante de la culture canadienne et nos partenaires de Sportsnet perpétueront cette belle tradition comme ils l'ont fait au cours des 12 dernières années, a insisté par courriel John Weinstein, chef des communications de la LNH. Rogers a accepté une autre entente il y a quelques années, alors qu'un accord de sous-licence a été conclu avec Amazon Prime Video. Cet accord de deux saisons qui est arrivé à échéance ce printemps permettait à la plateforme de diffuser des matchs partout au Canada le lundi soir. C'était « Hockey Night in Canada ne reviendra pas sur les ondes de CBC », un texte de Greg Roy Strong paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir.
Ma langue, ma fierté. Une présence francophone au défilé de la fierté dans l'Ouest. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 16 juin 2026 dans La Source. Le Comité franco-queer de l'Ouest, CFQO, et ses partenaires renouvellent leur participation au défilé de la fierté dans l'Ouest canadien, dont trois organisés en Colombie-Britannique dans le cadre de la campagne Ma langue, ma fierté. La saison de la fierté au Canada, qui s'étend de juin à septembre, bat son plein grâce à un vaste calendrier estival d'événements. Une avancée notable depuis les premiers rassemblements tenus à Ottawa et à Vancouver en 1971. Les t-shirts et les outils promotionnels « Ma langue, ma fierté » du CFQO seront présents cette année dans 7 défilés de la fierté, soit 4 de plus que l'an dernier. Winnipeg le 7 juin, Regina le 13 juin, Victoria le 12 juillet, Vancouver le 2 août, Edmonton le 22 août, Calgary le 6 septembre et Nelson dont la date est à venir. Une identité dévoilée. Selon Elizabeth Rush, qui préside le CFQO jusqu'en juillet 2026, l'initiative « Ma langue, ma fierté » lancée en 2025 a pour ambition de combler l'absence de visibilité francophone dans les espaces de la fierté de l'Ouest canadien. Pour ce parent de genre fluide qui utilise le pronom « Yel », avec les accords au féminin, et qui enseigne à l'école Victor Broder à Victoria, l'initiative dépasse largement le cadre d'un simple slogan. Yel y voit une manière de relier la langue, le corps et l'identité. Ma langue, ma fierté, c'est à la fois l'audibilité et la visibilité du français, mais aussi l'idée que la langue fait partie du corps et de l'identité. La façon dont nous parlons est intimement liée à notre identité, et l'affirmer publiquement devient un geste de fierté et de visibilité, souligne-t-elle. Yel rappelle que les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, peuvent parfois faire l'objet de préjugés en raison de leur manière de s'exprimer. La campagne devient donc un espace de réappropriation qui affirme que toutes les manières de parler et d'être sont valides et que l'on peut être toutes les parties de soi-même en même temps sans avoir à se fragmenter selon les contextes. Une approche ludique. Elizabeth Rush est enthousiaste au sujet de l'approche visuelle et symbolique de la campagne. Avec sa langue stylisée, son univers graphique coloré et son ton irrévérencieux. Les stratégies de revendication de la communauté queer sont souvent très sérieuses. Ici, nous cherchons à présenter une initiative ludique qui fasse sourire, qui crée un sentiment de proximité, indique-t-elle. L'enseignante affirme que cette légèreté n'enlève rien à la portée du message. Au contraire, elle transforme la langue en un espace de gaieté plutôt que de contraintes scolaires ou professionnelles. Trop souvent, le français est associé à l'évaluation et au rendement. Ici, nous cherchons à ce que la langue française soit associée au plaisir et à l'expression de soi. Une visibilité essentielle. C'est toute l'équipe de la Société francophone de Victoria, SFV, qui participera au défilé de la fierté à Victoria cette année, une présence que sa directrice générale, Nathalie Astruc, juge particulièrement importante, tant sur le plan communautaire que personnel. En tant que personne bisexuelle, une identité qui n'est pas toujours visible et parfois mal comprise, participer à la parade représente énormément pour moi. Elle insiste sur la réalité de l'intersectionnalité. En tant que personne francophone queer, nous pouvons vivre à l'intersection de plusieurs formes de discrimination, ce qui peut accentuer notre sentiment d'isolement. Il est donc important que la Maison de la francophonie du Grand Victoria, portée par la SFV, accueille les personnes queer avec fierté et à bras ouverts. Nathalie Astruc précise que la participation de la SFV au défilé de Victoria s'inscrit dans une vision plus large. Nous cherchons à offrir un espace inclusif, visible pour la communauté, grâce à l'affichage bienveillant et inclusif « Ma langue, ma fierté ». Une fierté linguistique bénéfique. Jennifer Ma, chargée de programmation à la Société francophone de Victoria, estime que la langue constitue un élément fondamental de l'expression de soi et du sentiment d'appartenance. Elle met l'accent sur l'importance de pouvoir vivre des événements communautaires dans sa langue, tout en insistant, comme Nathalie Astruc, sur la réalité de l'intersectionnalité. Participer à des événements communautaires dans la langue où nous nous sentons le plus nous-mêmes, c'est aussi pouvoir s'y présenter sans se réduire. Pour la chargée de programmation, certains gestes peuvent sembler modestes, mais leur effet est bien réel. Ce sont parfois de très petits gestes, entendre sa langue, la lire, la voir circuler autour de soi, qui participent à quelque chose de plus grand, le sentiment d'être légitime, visible et fier dans un espace partagé. Elisabeth Rush salue l'intérêt grandissant pour la campagne « Ma langue, ma fierté » qui, selon Yale, répond à un véritable besoin dans l'Ouest canadien. C'est une façon de dire que nous pouvons bien nous sentir dans notre corps, notre langue et notre communauté. C'était « Ma langue, ma fierté », une présence francophone au défilé de la fierté dans l'Ouest. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 16 juin 2026 dans La Source.
Après 25 ans de recherche, voici la thérapie prometteuse qui suscite l'espoir des chercheurs sur Parkinson. Un texte de la rédaction, paru le 13 juin 2026 dans Futura Science. Une avancée médicale spectaculaire redonne espoir aux patients atteints de Parkinson. Des greffes de cellules souches dans le cerveau montrent des résultats prometteurs, avec une amélioration durable des symptômes moteurs chez les premiers patients traités. Cette thérapie cellulaire, après 25 ans de recherche, pourrait-elle enfin offrir une solution à cette maladie neurodégénérative qui touche des millions de personnes ? La thérapie cellulaire pour traiter la maladie de Parkinson franchit aujourd'hui un cap décisif. Deux essais cliniques récents montrent que des cellules souches transplantées directement dans le cerveau peuvent survivre, produire de la dopamine et réduire significativement les symptômes moteurs. Ces résultats représentent une percée majeure après des décennies de recherche et ouvrent la voie à de nouveaux traitements pour cette maladie neurodégénérative qui affecte la qualité de vie de millions de patients dans le monde. Percée scientifique dans le traitement de Parkinson. La maladie de Parkinson, deuxième affection neurodégénérative la plus répandue globalement, se caractérise par la destruction progressive des neurones dopaminergiques dans la substance noire du cerveau. Cette dégénérescence entraîne les symptômes caractéristiques, tremblements, rigidité musculaire, troubles de la marche et déficit cognitif. Les approches thérapeutiques actuelles visent principalement à compenser le déficit en dopamine, sans en revanche pouvoir enrayer la progression de la maladie. C'est là que la thérapie cellulaire intervient de façon révolutionnaire, en cherchant à remplacer directement les neurones endommagés. Selon les projections de Global Data, le nombre de patients parkinsoniens dans 7 grandes puissances économiques, États-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Royaume-Uni et France, atteindra 3,15 millions en 2033 contre 2,16 millions en 2023. Cette augmentation souligne l'urgence de développer des traitements innovants. Des résultats cliniques porteurs d'espoir. Première étude, menée par la Blue Rock Therapeutics, filiale de Bayer, a impliqué 12 patients nord-américains. Les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans Nature, ont utilisé des cellules souches embryonnaires transformées en progéniteurs neuronaux pour les transplanter précisément dans le mésencéphale. La docteure Viviane Tabar, présidente du département de neurochirurgie au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et cofondatrice de Blue Rock explique. L'objectif est de positionner ces cellules précisément là où elles peuvent établir des connexions fonctionnelles avec d'autres neurones. Les résultats sont remarquables. Amélioration des symptômes moteurs de 50% après 18 mois. Production effective de dopamine confirmée par imagerie TEP. Amélioration significative du sommeil et de la mobilité quotidienne. Gain de jusqu'à 20 points sur l'échelle du PDRS pour les patients ayant reçu la dose maximale. Parallèlement, une seconde étude menée à Kyoto a utilisé une approche différente, mais tout aussi prometteuses. 7 patients ont reçu des injections de cellules souches pluripotentes induites, CSPI, dérivées de leurs propres cellules. Cette méthode, publiée dans Nature, présente l'avantage de contourner les obstacles éthiques liés à l'utilisation de tissus fœtaux, technique étudiée dès les années 1980. L'aboutissement de décennies de recherches. Ces avancées ne sont pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement de plus de 25 années de recherches intensives. L'équipe du Dr. Lawrence Tudor, co-auteur de l'étude américaine et directeur du Centre de biologie des cellules souches au Memorial Sloan Kettering Institute, a consacré une décennie entière à identifier la méthode optimale de production des neurones dopaminergiques. Le parcours vers ces thérapies innovantes s'est déroulé en plusieurs étapes cruciales. 1. Développement de lignées de cellules souches à capacité de prolifération quasi illimitée. 2. Mise au point de techniques de reprogrammation de cellules adultes en cellules souches pluripotentes. 3. Élaboration de protocoles de cryoconservation pour le stockage et le transport des cellules. 4. Création de procédés garantissant la pureté et la sécurité des préparations cellulaires. L'une des approches thérapeutiques a déjà reçu l'autorisation de la FDA pour entamer une phase 3 d'essai clinique, dernière étape avant une éventuelle commercialisation. Si les chercheurs restent prudents, l'enthousiasme est palpable face à cette thérapie qui pourrait transformer radicalement le traitement de Parkinson vers une médecine régénérative du cerveau. Cette double avancée représente bien plus qu'un simple traitement supplémentaire. Elle inaugure potentiellement une nouvelle ère de médecine régénérative appliquée aux maladies neurodégénératives. Le professeur Hideyuki Okano, du Centre de recherche en médecine régénérative de l'Université de Keio à Tokyo, souligne que ces travaux constituent une validation définitive d'un concept cherché depuis plusieurs décennies. Des défis importants subsistent néanmoins, notamment la production à grande échelle de ces thérapies cellulaires, leur coût et la nécessité de traitements immunosuppresseurs dans certains cas. Malgré ces obstacles, la communauté scientifique est unanime. Nous assistons à un tournant dans la lutte contre Parkinson, avec des implications potentielles pour d'autres maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique. La thérapie cellulaire révolutionnaire pour Parkinson ouvre ainsi un nouveau chapitre d'espoir pour des millions de patients à travers le monde, transformant une maladie jusqu'ici irréversible en condition potentiellement traitable. C'était, après 25 ans de recherche, voici la thérapie prometteuse qui suscite l'espoir des chercheurs sur Parkinson. Un texte de la rédaction, paru le 13 juin 2026 dans Futura Science.